Fréquence Mistral.
Salut à toutes et tous, auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral. Vous le savez, sur notre antenne, on a le plaisir de recevoir tout ce qui fait la culture à Marseille, tout ce qui fait bouillonner la culture dans notre région. Et on a le plaisir de recevoir de nombreux festivals, souvent durant l'été, puisque c'est la période des festivals. Mais voilà, je suis très heureux, puisqu'on est en décembre, bientôt en décembre, et on a des festivals qui persistent à venir nous réchauffer en plein hiver et à venir amener de la création, de la musique dans nos oreilles, dans des périodes assez tristes et assez noires. Bon, bien sûr, il y a les fêtes, mais c'est pas assez à mon goût. Et aujourd'hui, on va parler d'un festival qui vient illuminer cette période-là. C'est le festival Tous en Son. C'est un festival de création musique jeunesse qui se déroule du 2 au 21 décembre avec des dates dans toute la région, pas seulement à Marseille, avec 13 spectacles, 43 représentations, 16 lieux. C'est leur 7e édition et j'ai le plaisir de recevoir la directrice artistique de ce festival, Laurence Hébrard. Bonjour Laurence.
Bonjour Yacine.
Ça va bien ?
Ah oui, ça va très bien. Merci de nous accueillir.
Ouais, bah avec grand plaisir. Bon, bah, Laurence, déjà, voilà, c'est la 7e édition de ce festival. Toi, tu es directrice artistique de ce festival et directrice déléguée de tout. Donc, c'est un poste clé dans le festival Tous en Son. Est-ce que tu peux nous dire, déjà, avec tes mots, présenter le festival Tous en Son, nous dire qu'est-ce que c'est que ce festival ?
Donc, comme tu le disais en préambule, c'est la 7e édition. C'est un festival qui est né à Marseille en 2017. Et uniquement à Marseille. Très rapidement, il est allé grignoter sur le territoire aixois. Et depuis que je le dirige, donc depuis 2023, on grignote maintenant le territoire de Vaucluse. Mm-hmm. Donc en passant par la ville de Venelle, on va jusqu'à Pertuis et cette année, pour la première fois, jusqu'à Lourmarin, à la Fruitière Numérique.
Donc oui, ça grandit.
Ça grandit, oui, ouais, ça me plaît bien. Alors toujours, c'est toujours lié à des rencontres humaines avec les équipes, avec des envies communes, effectivement, d'aller vers cette programmation à destination du jeune public et des personnes qui les accompagnent, donc les parents, grands frères, grandes sœurs, grands-parents, etc. C'est un festival de création musique jeunesse, c'est-à-dire musique jeunesse, c'est pour faire écho à la littérature jeunesse. Mm-hmm. Donc voilà, donc on sait de quoi on parle, et création parce qu'effectivement, sont valorisés et privilégiés, ce qui fait un critère de sélection, du coup, les créations de l'année, donc 2025, et éventuellement de l'année d'avant, donc 2024, en ce qui concerne la 7e édition.
Oui, donc des nouveautés, en tout cas des spectacles ou des performances qu'on n'a pas eu la chance de pouvoir voir encore.
Tout à fait, exactement.
Et justement, alors ce public jeunesse, est-ce que c'est un public particulier ? Est-ce qu'on s'adapte à lui ou est-ce que c'est un public auquel on fait une proposition et il s'adapte lui-même ?
C'est une excellente question.
Ah, et oui. J'ai que des excellentes questions.
Oui, c'est vrai. Effectivement, je confirme que là, ça part plutôt bien. En fait, c'est le meilleur public. Mm-hmm. Parce que finalement, c'est pas forcément celui qui a déjà vu des milliards de choses, entendu. Il est pas blasé, déjà. Mm-hmm. Il est forcément curieux. Si on se passe du point de vue, on va dire, des artistes et ou du coup des programmateurs, l'idée c'est qu'effectivement, on leur ouvre le monde, celui qu'on connaît, celui qu'on n'aime pas, etc. Mais que peut-être on leur donne à voir et à entendre la meilleure facette de ce monde-là, quoi qu'on en pense et quoi qu'il s'y passe, même si du coup on est aussi sur des précautions ou des choses comme ça, mais c'est un peu l'histoire des contes aussi, hein. Dans les contes on raconte des belles histoires et en même temps des fois le fond, quand on lit avec des yeux d'adulte, on dit ah oui, mais ça raconte quand même des trucs moins cool que ce qu'on croyait, quoi, quand on était petit.
Les contes de Grimm, quand on les étudie, voilà. on est tous étonnés à
chaque fois. C'est ça, exactement. Ça va avec les dessins animés aussi, les animés. Et donc voilà, donc là, du coup, c'est ça, c'est de comment est-ce qu'on s'adresse à ce public-là. Donc ça, c'est vraiment le travail des artistes, d'être attentif. Après, on va dire qu'il va y avoir des choses très techniques sur la durée, par exemple, d'un spectacle en fonction de l'âge auquel on s'adresse. C'est vrai qu'on ne va pas mettre des enfants de 3 ans sur une représentation qui dure 2 heures. Bon, ça, c'est OK. C'est, à la limite, c'est entendu et tout ça. Mais après, on peut être inventif de tellement de choses, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut être en frontal, c'est ce qu'on a l'habitude d'avoir, on peut être dans des formes hyper immersives, c'est ce qu'il y a souvent quand on s'adresse aux tout, tout petits, c'est-à-dire à partir de 6 mois, où on a effectivement les parents et les enfants qui sont là, et du coup, on est en immersion avec la proposition artistique, ça c'est hyper intéressant, donc en fait, on peut inventer tellement de choses quand on s'adresse au jeune public.
Donc le jeune public, c'est la liberté pour les créateurs.
Carrément. Et en même temps, je pense qu'effectivement, il faut être hyper vigilant, exigeant avec soi-même et vigilant sur, sur cette adresse-là, sur de quoi on parle, comment on en parle. L'idée, c'est pas de les agresser. Ça peut être effectivement de les... dans tous les cas, les tirer vers le haut, de les éduquer, enfin, à l'endroit d'où on parle et le temps où on est avec eux. C'est hyper intéressant, je pense.
Je suis curieux en tout cas de découvrir cette programmation. Justement, c'est une programmation riche parce que je le répète, hein, c'est 13 spectacles et 43 représentations dans 16 lieux différents. Comment on fait déjà, ma question hein, pour un festival et tous les festivals itinérants comme le vôtre, c'est comment on fait pour créer du lien et créer un fil rouge entre ces représentations, cet événement pour garder cette identité forte de tous en son à chaque événement?
Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il y a vraiment cette histoire de l'humain, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des rencontres humaines, une confiance qui se noue avec les partenaires. Il n'y a pas d'obligation, c'est pas parce que du coup on est dans tel lieu une année qu'on est forcément dans ce même lieu l'année d'après. C'est OK si les thématiques qui se dessinent, et là elles ne se dessinent pas... Elle se dessine de deux manières, c'est-à-dire qu'en fait, sur 2-3 ans, je sais à peu près quel thème je vais aborder, ce qui effectivement me permet de tout simplement monter des dossiers de subvention. Alors ça, c'est très factuel et tout ça, mais bon, c'est quand même la nerf de la guerre. Ça fait partie de mon boulot de directrice de tout. mais il y a aussi effectivement, qu'est-ce qui est dans l'air du temps, de quoi on a envie de parler, et quand on se retrouve sur ce dont on a envie de parler entre directrice d'un festival itinérant, comme tu le disais, et effectivement des lieux partenaires, forcément, derrière, ça veut dire que si c'est dans l'air du temps, forcément, les artistes sont en force de proposition par rapport à ces thématiques-là. Et du coup, là, on s'y retrouve. Et après, les choix sont artistiques sur la manière dont on s'adresse aux personnes. C'est quoi la proposition artistique? C'est quoi le degré de création, etc., etc. Et du coup, tout ça, ça fait une grande marmite de sorcière, du coup, dans laquelle on a plein de petits ingrédients. Et il y a ceux qui adhèrent à ça, ceux qui boivent cette potion magique cette année-là ou pas.
Justement, tu as abordé ce thème de sorcière. Je sais qu'il y a un fil rouge au travers de l'IA, non, sur cet événement, sur ce festival, cette édition.
Oui, tout à fait. C'est en fait une thématique que j'ai choisie il y a 2 ans. En fait, j'avais vraiment envie de m'interroger, donc en répondant via les artistes sur la question de comment la technologie et l'intelligence artificielle impactent la création, et notamment la création musicale jeune public. Mais comme je n'allais pas programmer que des spectacles de musique électro, même si ça m'aurait ravi, mais que j'aime toutes les musiques, donc il n'y avait pas de souci avec ça, l'idée c'était d'avoir un pendant qui était le prendre soin, et comment la musique prend soin des enfants et de ceux qui les accompagnent. Et du coup, on a toute une question sur justement les risques auditifs. Donc on a un orchestre d'enfants sourds qui s'appelle l'Orchestre des Colibris, qui est né à Marseille il y a 6-7 ans. On a effectivement l'intervention d'un artiste, mais d'un chercheur qui s'appelle Emmanuel Bigan, qui propose un spectacle qui s'appelle l'Odyssée musicale du cerveau au Conservatoire de Marseille, au tout début du festival, et effectivement qui lui a travaillé, et travaille depuis des années sur l'impact de la musique sur le développement du cerveau de l'enfant, de l'adulte, de la personne âgée. Donc il y a vraiment ces deux thématiques-là qui se complètent en fait, et qui finalement marchent ensemble quand on se met du point de vue d'un point de vue positif, de regarder ce que c'est l'IA. Je parlais de la sorcière tout à l'heure, mais en conscience, c'est-à-dire que les sorcières, c'était celles dont on avait peur et celles qui soignaient. Mmh. Et là, en fait, l'IA, finalement, on entend des choses horribles et puis on entend des très, très belles choses qui se passent grâce à l'IA et ou à la technologie. Pour moi, là, je les associe vraiment par rapport au spectacle et aux propositions artistiques que j'ai choisies pour le festival. Notamment, je reprends cet exemple de l'Orchestre des Colibris. En fait, les enfants sourds de l'orchestre sont appareillés, donc ça c'est OK, ça veut dire et le développement technologique, mais les outils qui existent, qui sont vendus dans le commerce, maintenant il y en a de plus en plus et tout ça, en fait ils ne sont pas adaptés, ils sont adaptés à la parole mais pas à la musique. La musique, il ne faut pas qu'il y ait de délai en fait pour jouer ensemble.
Parce que je n'ai pas du tout idée des appareils, ils ont un délai dans le traitement de...
Mais, qui est dérisoire. Mais oui. En fait, du coup...
Pour être dans les temps, c'est trop. Ouais.
La musique dérisoire, ça ne marche pas, en fait. Oui, c'est vraiment... Vrai. Il faut être vraiment dans le même temps. Et donc, il y a eu des développements technologiques spécifiques pour, effectivement, ces enfants appareillés, mais qui sont musiciens et musiciennes.
Mais c'est que des enfants musiciens qui font un orchestre ?
Alors, sourd,
pardon.
Ouais, alors, du coup, c'est, je trouve le projet super beau parce qu'en fait, il y a donc sur un même pupitre, donc mm-hmm. par instrument, un enfant sourd, ce qu'ils appellent un jumeau ou une jumelle, c'est-à-dire un enfant du même âge qui joue le même instrument, qui sont aussi accompagnés par un parrain ou une marraine, c'est-à-dire un adulte professionnel musicien du même instrument qui accompagne le pupitre. Okay. Et donc, en plus, je trouve que la démarche humaine, elle est incroyable aussi dans cette proposition.
Sens, c'est tout vraiment à fait. Faire société ensemble avec tout ce qu'elle compose. Ok, c'est un projet intéressant. Parce que j'ai entendu dans un festival précédent, justement, j'ai eu la chance d'accueillir beaucoup de festivals ici dans les studios, mais qu'il y avait des gilets vibrants maintenant pour les personnes malentendantes. Oui. Est-ce qu'ils sont équipés de ce dispositif-là ?
Alors, pour ce projet-là, pas du tout. Et effectivement, c'est un projet qu'on retrouve chez notre partenaire qui est la Criée. Enfin, je devrais plutôt dire l'inverse, c'est un peu prétentieux de ma part. Mais bref, du coup, on ouvre quasiment le festival. Alors, on ouvre le festival avec l'Orchestre des Colibris à Venelle, à l'Étincelle, le mardi 2 décembre. Mais le jeudi 4, on est à la Criée, justement, avec la Planète Sauvage, qui est la nouvelle création de l'Orchestre National de Jazz. Et la Criée, pour répondre à ta question, est effectivement équipée de ces dispositifs de gilets, tout ça, de manière expérimentale cette année.
D'accord, ouais, pour permettre aux personnes malentendantes de pouvoir entendre, de pouvoir ressentir le concert.
Exactement, tout à fait.
C'est un vaste sujet, même moi, en tant que personne entendante, je serais curieux de les essayer pour voir ce que ça peut faire comme sensation. Ouais, ben c'est riche, en tout cas. Bah, j'aurais plein de questions à poser sur cet orchestre des Colibris, mais il faut qu'on avance. Justement, Laurence, je voulais parler de cette programmation. Bah, tu l'as dévoilée un petit peu avec cette première qui va se dérouler donc à Venelle et ensuite au Théâtre de la Criée. Est-ce que tu peux nous parler de cette programmation, de sa richesse, de ce que vous avez proposé cette année? Puisque moi, je l'ai sous les yeux, mais malheureusement, les gens qui nous écoutent vont juste nous entendre, donc ils ne peuvent pas voir ce que je vois.
Alors, ils pourront la retrouver sur toussanson.fr et tout ça. Il y a plein d'images, de photos, de vidéos et tout ça. Oui, alors donc elle est en lien avec les thématiques dont on vient de parler. Souvent on s'adresse, jusqu'à présent on avait quand même beaucoup de spectacles à partir de 6 mois, ce qui n'est pas toujours évident à trouver si on reprend un peu le début de notre interview et tout ça. Il y a de très très belles choses, mais voilà, il faut aller les chercher, les dénicher, on va dire, et en fait en plus les artistes ne se sentent pas forcément pour des questions de, je sais pas, légitimité ou de proximité, bref, de s'adresser à ce si jeune public. Ça nous est arrivé, et du coup, généralement, les spectacles allaient jusque... La tranche d'âge, c'était jusqu'à 10 ans, par exemple, on va dire. Et là, on a un peu décalé. Donc, effectivement, l'adresse est au plus jeune est à partir de 3-4 ans. Mais par contre, on monte un petit peu plus loin. On va sur des spectacles, effectivement, qui vont jusqu'à 14-15 ans. C'est notamment sur deux spectacles qu'on a coproduits, c'est-à-dire où on est rentré financièrement dans la production de ces spectacles-là. Donc c'est un spectacle qui aura lieu à Marseille, à l'espace culturel Busserine, qui s'appelle Halle 2000, et qui est un spectacle qui est une création de Dome Studio, qui vient de Bayonne. Là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on est, complètement dans l'histoire de l'intelligence artificielle, puisqu'en fait, c'est le dialogue entre un DJ et justement une intelligence artificielle, où il y a effectivement toute une part de création musicale, donc où le musicien utilise l'intelligence artificielle, mais en fait où il est comme dialogue avec l'intelligence artificielle. L'idée, c'est de rentrer dans des émotions, etc., et d'apprendre à l'IA à avoir des émotions. Voilà. Donc je peux pas en dire plus parce que notamment je ne l'ai pas vu puisque c'est une création, mais en tout cas quand les artistes et le producteur m'ont présenté ce projet il y a déjà donc 2 ans. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour la manière dont ils ont parlé, et effectivement, pour moi, c'était évident de les programmer dans le cadre de cette édition-là. Et le deuxième spectacle qu'on a coproduit, lui, ne sera présent que à Aix-en-Provence pour 8 représentations. Il s'appelle Métamorphose, et c'est un collectif qui s'appelle le collectif Yokai So Six. Et c'est de nombreux artistes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le projet, il est né d'une rencontre informelle qui a été organisée par le ministère de la Culture, la SACEM et Ramdam, qui est le réseau jeune public français qui met en lien effectivement du coup tous les créateurs de contenu à tous les niveaux autour du jeune public et de la musique jeune public en l'occurrence. Ils se sont rencontrés en 2023, tous ces artistes, alors qu'ils ne se connaissaient pas du tout. Ils étaient de Aix, de Marseille, de Paris. Et ils ont créé un projet de manière factice, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'était de travailler ensemble. Et comment est-ce qu'on apprend à travailler ensemble quand on vient d'univers différents, mais sans, il n'y avait pas d'objectif de création d'un spectacle, sauf qu'ils se sont tellement bien entendus et que le projet leur a paru tellement intéressant que finalement, ils se sont revus et que le spectacle, finalement, est né de ces énergies-là. Et du coup, c'est un spectacle immersif où il y a de la création musicale en direct, il y a du vidging, il y a du DJing, il y a une musicienne, chanteuse, contrebassiste. Et en fait, on est accueilli pour un voyage immersif et on est vraiment accueilli comme si on allait à l'aéroport prendre un avion. Et, sauf que là, on va prendre un vaisseau qui va traverser les planètes, etc. quoi. Et c'est un spectacle contributif où l'intelligence artificielle est aussi présente. Mmh. Et c'est là où je dis, c'est intéressant effectivement comment les artistes se saisissent de l'intelligence artificielle pour en faire un outil. Du coup, vraiment, il y a toute une partie de création où les spectateurs sont impliqués dans la création de personnages. Alors, je ne vais pas tout dévoiler, mais de personnages qui ensuite viendront nourrir le spectacle à vie, puisqu'en fait, chaque contribution reste dans la mémoire de l'intelligence qui nourrit le spectacle. Quoi.
Ah ouais, donc voilà. C'est un vaste... et c'est là où on voit comme c'est riche de faire rencontrer des artistes. Mais justement, c'est intéressant, ça veut dire que le festival Toussançon, en plus de grossir, on va dire géographiquement, puisque tu l'as dit, ça part de Marseille, puis maintenant c'est Aix-en-Provence, et maintenant le Vaucluse, et ça grandit et ça grandit. Mais c'est aussi un festival qui vient produire donc, et créer, dans le sens où vous allez faire de la production pour des spectacles qui vont émerger grâce à vous.
Oui, alors on essaye d'être vraiment à cet endroit-là où les artistes ont besoin de nous réellement, c'est-à-dire les besoins financiers, ouais. Mais aussi ça veut dire donc vraiment là c'est ok en fait c'est un chèque, enfin c'est un chèque, ça n'existe plus, mais bref, donc effectivement il y a vraiment la contribution financière, il y a du coup le dialogue qui se noue aussi par rapport à ça et le fait d'avoir la connaissance de comment est-ce qu'évolue le projet tout au long du moment où on s'y engage et aussi et c'est intéressant le fait que tu fasses le comparatif tout à l'heure entre les périodes estival où on retrouve plein de festivals et tout ça, et effectivement les spectacles quand ils sont créés ils ont besoin de temps temporalité, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de jouer plusieurs fois. Nous, ce qu'on essaye de faire aussi, quand on les accueille en décembre, c'est sur un autre temps de l'été où il y a beaucoup de sollicitations et où du coup, ça leur permet de jouer plusieurs fois. Alors, soit plusieurs fois au même endroit, soit plusieurs fois dans des endroits différents. Donc l'histoire du parcours effectivement géographique et tout, et du coup de faire naître, de faire bouger, évoluer leur création, et du coup en plus de la coproduction en général, on est aussi sur du pré-achat, c'est un terme un peu technique de tout ça, mais pour les quidam et tout ça, c'est pas forcément super intéressant, mais pour nous c'est important, c'est un réel engagement en fait, du coup auprès des artistes pour qu'ils continuent et qu'ils puissent continuer à créer en dehors de des fois des risques par rapport aux tutelles, quoi, tout simplement. Ouais.
Donc, de savoir, oui, que dans 2 ans, leur spectacle, il aura bien une fin et un débouché grâce
une
à vous.
Une visibilité, tout à fait.
Une visibilité, oui, effectivement. Je voulais poser une question, Laurence, puisque je le dis, ce festival, c'est un festival de création musique jeunesse. Donc, je voulais savoir si les réactions des enfants vous surprennent encore. Vous qui avez, vu pas mal de spectacles, j'imagine, et beaucoup d'enfants devant ces spectacles, est-ce qu'on est encore surpris par leurs réactions qui sont, j'imagine, toujours un peu improbables?
Alors, ce qui est absolument génial que j'adore faire, et c'est que, du coup de proposer les mêmes spectacles en séance scolaire et en séance tout public. Et alors la vraie différence du coup entre les deux séances, c'est que du coup en séance scolaire, ils sont avec leur maîtresse, leur maître et tout ça. Ils sont avec leurs camarades de classe. Ils ont des réactions... ils sont beaucoup dans l'émotion et dans le participatif. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en classe, pour le coup, mais du coup, effectivement, ils sont vraiment là-dedans. Quand ils sont en séance tout public, la différence, c'est qu'il y a généralement moins d'enfants, puisque en fait, il y a les enfants, mais il y a leurs parents, il y a plus de parents que de maîtresses et de maîtres lors des séances scolaires. Donc, c'est des fois plus réservé, mais en tout cas, ce qui est très drôle, là, du coup, dans les séances tout public, c'est que les rires sont souvent décalés entre les adultes et les parents, et les adultes et les enfants, autant pour moi, parce que il y a souvent, en tout cas, dans les spectacles que je choisis, cette double lecture entre, effectivement, qu'est-ce qui s'adresse aux enfants directement, qu'ils prennent, et, alors ils reçoivent, donc ils pleurent ou ils rient, direct, quoi, et effectivement, les parents qui vont peut-être avoir ce décalage de réagir, alors déjà, soit au spectacle, ok, mais soit peut-être aussi à la réaction de leur enfant ou des enfants, mm-hmm. en disant, qu'est-ce que j'ai raté, mm-hmm. en fait, mais vraiment, c'est ça, et j'aime bien penser que c'est ça, en fait, que peut-être le parent se dit... Attends, j'ai raté un truc là, pourquoi... Putain, je ris plus à ça. Et voilà, ouais, je ne m'émeux plus de ça, et ça, c'est chouette. Ouais, donc, ils me surprennent toujours, pour répondre à ta question, oui, et j'adore ça.
Ouais, justement, je voulais savoir comment on fait, avec qui on vient, donc j'imagine avec ses enfants ou avec les enfants de quelqu'un d'autre, mais donc on vient avec ses enfants, mais donc du coup, on fait comment pour venir, ça coûte combien, c'est où?
Alors, je réponds à ce que tu viens de dire, enfin, je relève ce que tu viens de dire, moi, pour moi, je pense que ils seraient les bienvenus. Que les adultes qui ont envie de découvrir les spectacles n'hésitent pas à venir sans enfants, oui. qu'ils ne kidnappent pas d'enfants pour venir aux spectacles. Ils seront les bienvenus, il n'y a pas de souci, ils ne seront pas obligés de trouver, enfin, mais qu'ils amènent les petits voisins au cas où s'il faut. Mais en tout cas, il n'y a aucun problème à venir en tant qu'adulte oui. voir ces spectacles-là.
Toute personne qui a une sensibilité artistique.
Ben, c'est ça, en fait. Moi, je stipule plutôt la mention de tout public à partir d'eux, parce qu'effectivement, oui, il y a des spectacles où il y a écrit à partir de 10 ans, il ne faut pas venir avec des enfants de 5 ans. Hmm. Mais par contre, c'est à partir de 10 ans, c'est-à-dire que du coup, si t'en as 50 ou 60 ou 40, c'est OK pour venir, quoi. Mmh. Et à partir de 3 ans, ça veut dire que si t'en as 20 ou 30 ou 40, tu peux aussi venir, il n'y a pas de problème avec ça. Et du coup, comment est-ce qu'on retrouve la programmation sur toussenson.fr? Il y a beaucoup, alors j'ai pas regardé exactement précisément, mais on va dire il y a au moins 50% des spectacles qui sont en accès libre. Mmh. Et ensuite, on essaie d'être assez, comment dire, raisonnable sur les prix d'entrée. Donc, il y a un tarif unique normalement à 9 euros quand il y a du tarif unique. Et sinon, ça va de 6 à... Et effectivement, je crois que le spectacle le plus cher, mais qui est, c'est vraiment exceptionnel, ça va être 19 euros à la Criée pour l'Orchestre National de Jazz. C'est aussi parce que c'est la Criée, mais pas que. C'est-à-dire qu'on est dans la grande salle de la Criée. Donc, il y a aussi toute l'économie du spectacle sur lequel on pourrait faire toute une émission. Donc ça voilà, c'est pas le sujet là. Mais effectivement, généralement, on essaie d'être sur des prix abordables et surtout mixés. Pour que c'est un festival. Donc, l'idée, c'est aussi peut-être de revoir des spectateurs d'un spectacle sur un autre spectacle. Mais que pour ça, du coup, ils ne se ruinent pas, notamment avant les fêtes de Noël.
Oui, bah oui, oui, c'est vrai que c'est une période où on est tous en train de mettre les petites noisettes de côté pour les cadeaux. Mais en tout cas, c'est un plaisir de savoir que voilà, la culture et la musique vont continuer de résonner même en cette période. Laurence Hébrard, je vous souhaite bon courage pour ce festival donc Toussenson qui se déroule du 2 au 21 décembre, on le rappelle. On peut retrouver toute la programmation en ligne donc sur toussenson.fr.com.
.fr,
voilà. Et on vous souhaite beaucoup de courage pour cette 7e édition parce qu'on sait ce qu'il faut comme travail derrière pour tenir.
Merci Yacine.
Excellente journée.